français
entre les poteaux.
Christophe Cessieux.
Salut à tous, c'est devenu la grande mode dans le sport professionnel. Après des années de secrets, les champions, leurs clubs et leurs compétitions s'offrent désormais au regard curieux des caméras. Vous avez certainement entendu parler de Drive to Survive, la série de Netflix consacrée à la Formule 1. Le Tour de France et la moto GP vont également y passer dans les mois à venir. Mais ils ne sont pas les seuls à s'essayer à l'exercice. Dans quelques jours sortira en salle un film intitulé Stade, consacré à la fin de saison à succès du Stade Toulousain l'an dernier, vainqueur de la Coupe d'Europe et du championnat, faut-il le rappeler. Et de ce film, on va tout vous dire avec notre invité, Didier Lacroix, le président du Stade Toulousain, qui nous fait l'amitié d'être avec nous entre les poteaux. Bonjour Didier.
Bonjour à tous.
Merci d'être avec nous, ça fait plaisir. Tu n'es pas le seul, évidemment, il y a d'autres poteaux, poteau habituel, évidemment, qui lui aussi fait un peu partie de la grande famille du Stade Toulousain. Est-ce que, même s'il a déserté Toulouse un jour de 1990, il est encore considéré comme un Toulousain, Denis Charvet, Didier?
D'évidence, un cadurcien d'abord.
c'est vrai, ça, ouais. D'abord. Ouais.
Un stadiste à vie. Bien entendu. Ouais. Et puis, il a été amené dans sa roue par un certain Gérald Martinez, très certainement, qui a fait que...
Jean-Pierre Rive, ouais, qui était toulousain aussi.
J'allais y venir, et le grand Jean-Pierre, qui reste stadiste à vie. Ouais,
stadiste un jour, stadiste toujours, ou il y en a certains qui ne sont plus...
En tout cas, sur les trois qu'on a cités, ce sont des grands ambassadeurs du Stade Toulousain.
On est marqué à vie par le Stade Toulousain.
Ouais,
non, mais c'est vrai.
Mais bon, tu as décidé un jour
c'est
de partir.
C'est normal quand même,
tu
as eu des émotions aussi intenses, aussi grandes.
T'avais des rêves, des cinémas, toi aussi.
Non, pas du tout, j'avais fait le tour, j'avais pas envie de finir... En bas, et c'est vrai que je suis parti. C'est la principale raison, j'avais tout connu et toutes les joies. Je suis parti à cause de ça.
Très bien. Les autres poteaux, Léo Faure, bah lui, il est en direct de Toulouse. Hein. Lui, il s'est installé à Toulouse. Il n'est pas originaire de Toulouse, du Midi Olympique. Salut Léo.
Salut l'équipe.
Salut Léo.
La forme ?
Bah écoute, on est en pleine forme. Et puis lui aussi, bah lui, il est de La Rochelle, mais comme il était passionné de rugby, il est obligé de quitter La Rochelle pour aller à Toulouse. Wilfried Templier.
Faut être mazo dans cette semaine, hein, pour être La Rochelle.
Nobody's
vous
perfect.
Allez voir des films au ciné comme ça. Et bonjour à toutes et à tous.
Bah, c'est vrai qu'on le veuille ou non, messieurs, on le voit avec vos positionnements géographiques, vos origines. Le centre du rugby français reste quand même Toulouse, hein, Didier. Il n'y a pas à tortiller.
Ah, hein, je manque énormément d'objectivité pour me prononcer, mais ça me paraît évident.
Alors, on va évoquer le film dans un instant. Avant ça, on rappelle ton pédigré. Tu es né à Toulouse, il y a 52 ans. Tu as fait toute ta carrière de joueur au stade, t'as remporté je sais plus combien de titres, mais enfin bref, c'était la grande époque.
Tu peux le dire, hein.
Ouais, j'ai eu la chance de jouer avec une équipe qui a remporté 6 titres de champion de France et un titre, et le premier titre de Coupe
premier
d'Europe.
Titre de champion d'Europe, ouais.
À Cardiff.
Et on ne compte pas les du Manoir et le Béguer, mais j'ai eu la chance de jouer avec Denis Charvet.
Eh ouais. En plus, il n'avait pas un melon démesuré à l'époque, comment il était non. Alors, tu m'as raconté tout à l'heure une histoire, il faut que tu me racontes une histoire.
Vas-y,
un match non, je me suis permis de chambrer, de romancer comme on aime si bien le faire, un essai mythique de Denis Charvet, non pas celui de la finale contre Toulon. 89, ouais. Mais en 89 également, dans la saison 89-90, il marque à Tyros, et en fait il court plus vite après avoir marqué pour entrer dans son camp que pour marquer l'essai, tant la pression de bord de terrain était assez importante dans les Landes.
Tous les spectateurs avaient des parapluies, étaient prêts.
Il fallait y aller à Tyros.
Ouais, Tyros,
ah,
avec
Tyros, c'était chaud.
Vicençant,
Bidard. On avait des avants quand même courageux.
Ah, ouais.
Ça va.
Ouais.
Puis Brogé Thomas à l'ouverture, ça allait.
Tu pouvais te réfugier.
J'avais mon garde-fou.
Ouais. Très bien. Alors, Didier, sous ta carrière de joueur énorme, et puis ensuite, président du Stade Toulousain depuis 2017, c'est vrai que c'est difficile de témoigner plus de fidélité à un club, à une ville que toi. Sous ta présidence, le Stade a repris les couleurs. C'est vrai qu'il y a eu une période un peu compliquée. Deux boucliers de Brennus en 2019 et 2021. Bon, en 2020, il n'y en a pas eu, puisque évidemment, il y a eu le Covid. Et puis un sacre européen, le cinquième du club, c'était la saison dernière. Il est pas mal le bilan quand même. Il y a des présidents qui mettent beaucoup plus de temps pour gagner des titres.
Oui, mais on est dépositaire de l'institution du Stade Toulousain le temps de sa présidence. On le prend avec peut-être des braises un peu endormies, mais des braises existantes sur lesquelles il suffisait juste de souffler dessus, de rassembler les morceaux de bois qu'il y a sur les côtés et de rallumer cette belle cheminée. Donc, encore une fois, ce n'est pas une création, c'est l'entretien d'une institution. On arrive à un moment où il y a une génération assez magique. Il faut que la mayonnaise prenne, il faut leur donner confiance, notamment à ce grand acteur, puisqu'on va parler du film qui est Hugo Mola aujourd'hui, qui est au firmament de l'histoire de ce film, et qui avait peut-être besoin un peu de confiance en 2017 à mon arrivée.
Oui, mais la confiance, c'est toi qui lui as apporté, parce que si on refait l'histoire, c'était pas évident pour Hugo au départ. Il succède à Guy Noves, donc on connaît le palmarès et la qualité, donc c'est toi quand même qui a réussi quand même à porter cette confiance. Puis surtout à faire marcher le club, parce que tu es très modeste dans ton déclaration, mais c'était pas évident pour toi de prendre la succession de René Bouscatel quand même.
C'était pas évident, mais je crois qu'à un moment, il faut aller au bout de ses convictions. Et pour revenir à Hugo, j'étais intimement convaincu, mais depuis de longues dates. Non pas juste à ce moment-là, parce que c'était peut-être le moment le plus compliqué, j'étais intimement convaincu que
c'était lui, quoi.
Que lui peut porter un regard au Stade Toulousain comme on l'aime, comme tu le connais, avec cette disruption par rapport à ce qui est fait dans la planète rugby. C'est toujours prétentieux quand on se permet de le dire, mais de jouer certainement différemment, de faire confiance à des formats de joueurs qui jouent sur l'agilité, sur la vitesse. Jacine Colby l'a incarné, bien entendu. Personne ne parlait de ce format de joueurs au moment où on est allé le chercher. Antoine est très costaud, devient le meilleur joueur du monde, mais c'était pas un format auquel on pensait. Et je pense qu'Hugo, de par sa manière de penser le rugby, était le bon interlocuteur pour jouer ce type de jeu.
Alors, saison extraordinaire l'année dernière, même si évidemment il y a eu le Covid. Une saison que le grand public va donc pouvoir découvrir en salle avec ce film intitulé Stade, qui sortira le 13 avril, je crois.
13 avril.
Wilfried, tu as eu la chance de le voir en avant-première, évidemment. Toi, tu es toujours dans les petits papiers du Stade. Alors, de quoi s'agit-il et faut-il aller le voir, monsieur?
Est-ce qu'on peut dire que des fois, Wilfried est trop dans les petits papiers du Stade? Il a même des informations que n'a pas le président.
Ah, d'accord. Donc, ça règle
ses problèmes. On a droit ici.
C'est vrai ça, Wilfried, t'as des infos que
c'est pas bon quand t'es trop brossé dans le sens comme ça. Avec un troisième ligne comme lui.
Oui, troisième ligne de devoir. Alors Wilfried, toi qui es un bon critique cinéma, dis-nous un peu ce qu'il y a dans ce film et ce qu'il faut aller le voir, quoi.
Alors c'est un film, on l'a dit, qui retrace de l'intérieur l'épopée de la saison 2021, qui s'est terminée en doublé, hein, Coupe d'Europe Top 14. Un inside signé de la société de production Black Dynamite, hein, et co-réalisé par Eric Enzo et Mathieu Voller, hein, qui était le caméraman à l'intérieur du groupe lui-même. Cet inside qui à la base était peut-être pas, alors Didier va nous le dire, qui était peut-être pas destiné à finir dans les salles de cinéma. Le but était de montrer aux gens, je pense, cette aventure de l'intérieur, mais ce qui était potentiellement à la base une série, peut-être à vendre sur n'importe quelle plateforme, il va nous l'expliquer, c'est devenu la volonté d'en faire un film aussi avec l'arrivée des studios Pathé dans le projet. Ça dure 1h47 en noir et blanc, c'est en noir et blanc. Le spectateur va suivre la chronologie et surtout la deuxième partie de saison. Pas d'interview, que des ambiances à l'entraînement, dans les vestiaires, avant, pendant, après les matchs, dans le bus, à l'hôtel, avec un manager Hugo Mola omniprésent à l'image. Des moments bruts, sans filtre, sans censure, et du coup, ça nous donne des séances de motivation intenses, souvent, très souvent, que le rugby ne montre jamais. Peut-être que les futurs adversaires du Stade Toulousain, eh bien, iront voir le film tant ils pourraient trouver une motivation pour les matchs à venir, parce que ça fuse les « on va les raser, on va les faire péter, pour qui ils se prennent ». Eux, ils jouent le Stade Toulousain, nous, on joue une demi-finale de Coupe d'Europe. Ça monte une équipe qui veut écraser la concurrence, mais qui arrive à ses fins. On y voit des moments forts, il y a un début de bagarre entre les frères Arnold et Joe Tecori, à l'entraînement, un sermon de Didier Lacroix, à la descente d'avion après la victoire à Munster en 8e de finale de Coupe d'Europe pour quelques bouteilles de whisky embarquées. La tristesse du club au moment de la blessure qui sonnera la fin de carrière de Johan Hugé, ou encore un concours de drop qui s'avérera précieux avant la finale au top 14 face à La Rochelle. Tout ça finit avec le début de la saison 21-22 sur un discours d'Antoine Dupont dans les vestiaires du stade Marcel Defland de La Rochelle juste avant la première journée qui augure peut-être une suite.
En gros, ça donne ça.
Ce maillot, il a une putain d'histoire.
Ça, c'est la culture de la gagne.
Cette putain d'excitation qui fait qu'on fait des gros matchs, c'est l'envie d'être le Stade Toulousain.
One, two, three, yeah.
L'envie de cabosser les équipes contre lesquelles on joue. Il faut les faire péter et après on envoie la cavalerie, c'est clair?
Ah.
Voilà, donc en salle à partir du 13 avril. Est-ce que ça vous donne envie d'aller voir ce film ? Alors, c'est vrai que le Stade Toulousain a une image qui dérange parfois ses adversaires. C'est peut-être à force de gagner, mais c'est à force aussi de montrer qu'on est les plus forts. Léo, toi qui n'es pas un supporter du Stade Toulousain au départ, tu es journaliste déjà à Midi Olympique. Comment c'est vécu dans le reste du rugby français, dans le reste du top 14 ?
C'est assez particulier parce qu'il y a forcément, tout le monde reconnaît la qualité de jeu, par exemple, de l'an dernier, mais ça date pas d'aujourd'hui, depuis pas mal d'années. Et forcément, il y a un peu de jalousie parce qu'on a envie d'être à leur place. Donc, quand on se balade dans les stades, il y a une part de respect, d'admiration. Et puis, l'envie de faire tomber le champion, donc avec toute l'animosité que ça génère. Ouais, c'est un club à part, en fait, dans tout ce qu'il génère. Donc on le voit quand il gagne et quand il perd. C'est un club qui reste assez à part dans le paysage, ouais, le Stade Toulousain.
Mm-hmm. Denis, l'idée de ce film.
J'ai envie de le voir. Je vais le voir à l'avant-première au Grand Rex, donc avec grand plaisir et bonheur. Après... Didier me dit que c'est pas trop inside, donc ça me plaît davantage de l'idée que ce soit pas trop inside.
Oui, parce qu'on a eu un débat dans les grandes gueules du sport samedi.
J'ai peur que ça désacralise. Après, si c'est des émotions, si c'est ressenti, c'est différent.
En gros, ce que disait Philippe Saint-André, il disait moi, je trouve que le vestiaire doit rester un sanctuaire, que les secrets du vestiaire doivent rester dans le vestiaire. Didier.
Didier, tu dis que c'est pas trop inside, quand même.
Quand même, ça.
On voit énormément de choses qu'on voit jamais. On entend des choses qu'on n'entend jamais.
Alors, peut-être qu'on entend des choses que l'on n'entend jamais. D'évidence, lors du premier visionnage, on avait une appréhension très très forte pour justement... c'est cette appréhension d'ouvrir la porte des vestiaires de façon un peu particulière. Je le remets dans le contexte. Certes, on est dans un phénomène de société sur lequel, on le disait à l'instant, les salles de cinéma ont besoin de se réinventer un modèle avec des contenus un petit peu différents. Et donc, ce film sort aujourd'hui. Nous, au départ, on pense que face au Covid et en plein état de huis clos, on a besoin de prendre date et de se reconnecter avec notre public. Notre public n'est pas là pour voir les matchs. Et donc, on se dit, pourquoi on ne leur offrirait pas la possibilité de nous accompagner, même a posteriori, en amenant l'ensemble de cette équipe jusqu'à l'objectif de 2023, et notamment la Coupe du Monde. L'histoire, elle part de là. Le film, bien sûr qu'il montre des choses qu'on n'a pas montrées jusqu'à maintenant. Bien sûr qu'il y aura certainement des ingrédients dont vont se nourrir nos adversaires pour pouvoir
voir... Les Castrés l'ont vu là avant le match de ce week-end ou non ?
Non, je pensais même en manquant d'humilité que ça nous nourrirait un peu plus pour avoir plus d'appétit pour y revenir. Et on a buté sur la marche. Comme quoi, tout n'est pas universel et la motivation, elle a bien sûr la fonction de mettre en éveil l'ensemble des joueurs, mais elle a surtout un bout de stratégie. Et je crois, pour arriver jusqu'à là, que ce qu'il faut lire dans ce film, c'est la stratégie d'Hugo Mola, la thématique qu'il a choisie et qui est complémentaire entre la Coupe d'Europe et l'histoire du top 14, sur lequel on déroule deux histoires en parallèle que l'on amène jusqu'au bout et si possible jusqu'à la première marche. Il y a un vrai, presque sans être donneur de leçons, cours de marketing que l'on pourrait mettre en place. Ça s'applique là du rugby, ça peut s'appliquer à d'autres sports et ça peut s'appliquer également au monde de l'entreprise.
J'ai une question, Didier. On parle effectivement de l'ouverture du vestiaire, qui est quelque chose d'assez sacré dans le rugby, dans tous les sports, mais peut-être encore plus dans le rugby. Dans quelle mesure, quand même, vous aviez le droit de regard et si foot veto sur certaines scènes, vous avez dit non, là, ça c'est trop intime, sans parler de polémique, mais ça c'est trop intime au vestiaire.
Alors, c'est là où je trouve que c'est pas très inside, parce qu'on n'a rien réservé.
Ouais.
On a tout ouvert. Pour moi, c'est la performance absolue de Mathieu Voltaire qui est rentré par la petite porte du vestiaire et fait partie aujourd'hui, c'est un membre à part entière de l'équipe de l'encadrement, au même titre qu'un préparateur ou qu'un kiné. Il est d'une discrétion incroyable et il n'y a plus aucune retenue d'évidence au moment de la captation des images. D'où la peur absolue, je vous confirme,
mais alors, Didier,
que l'on avait au moment du visionnage. Mais
j'imagine que vous ne gagnez ni l'un ni l'autre. Vous n'êtes pas champion, vous ne gagnez pas la chance.
Mais on n'a pas prévu de faire le film.
Non, mais je suis d'accord avec toi, mais ça aurait changé quelque chose ou pas?
Oui. D'abord, le film n'aurait pas existé.
Ah, il n'aurait pas existé.
Mais c'est comme les yeux dans les bleus, hein, c'est un peu la même chose.
Il fallait gagner pour le sortir, alors. Oui.
J'allais presque renvoyer la balle auprès de Black Dynamite et maintenant de Pathé, qui veulent, il y a 4-5 mois maintenant, sortir un film parce qu'ils pensent, eux, avoir la matière. Et la matière, ce sont les titres, bien entendu, mais c'est le contenu pour raconter une histoire,
bien sûr,
plutôt que juste être l'œil inquisiteur dont on a tous peur.
Il faut que l'histoire soit belle.
Et pour eux, ils avaient de la matière.
Didier, est-ce que... Alors, les gens de... Les écuries de Formule 1 sur Drive to Survive n'ont pas eu le droit d'avoir la main sur le montage final. C'est-à-dire, ils n'ont pas pu retirer des choses qui auraient été dites, le final cut. Est-ce que toi, tu as eu l'autorisation d'enlever des choses? Est-ce que tu as eu envie de le faire? Est-ce que tu l'as fait?
Alors, j'allais presque vous surprendre. Je ne sais pas si on a l'autorisation, mais en tout cas, on ne l'a pas fait.
D'accord.
Voilà. Faut que je relise le contrat pour aller jusqu'au bout. Non, on l'a pas fait, mais je pense que soit il n'y avait pas de matière à être plus...
Vous étiez en confiance, on va dire.
Ouais, on était honnêtement...
C'est important, la confiance, quand même.
Honnêtement, la confiance, elle est totale avec la production actuellement.
Ouais. Denis, le cinéma, le Stade Toulousain...
C'est lui qui nous a tout appris.
Un caméscope en 87.
C'est quand même lui qui nous a tout appris. Il est parti du stade pour être acteur. Bien d'accord.
J'avais rien. Non mais alors, figure-toi, je ne sais pas si tu es au courant de l'histoire, Didier, mais en 87, tu as filmé une partie de la saison.
La Coupe du Monde.
Ouais.
Non, j'ai fait un documentaire...
Sur l'équipe de France.
20 ans après, qui s'appelait 20 ans déjà, et où j'avais ma caméra, la première Coupe du Monde du rugby, et personne ne m'a demandé de... Enfin, en fait, si tu veux, je n'avais pas le droit, mais personne ne m'a interdit.
Il est pas mal, c'est le même mec qui a dit au début du podcast « Je suis pas pour les images à l'inside ».
Tu as raison, il faut le mettre devant ses contacts.
Ouais, j'ai beaucoup évolué. Oui, j'ai mûri, c'est la maturité qui veut nouer.
Tu les as gardées ces images? Mais tu sais que c'est un
J'ai fait un doc pour Canal, non mais qui est passé, il a passé plusieurs fois sur Canal. Ouais.
Vous l'avez vu les gars vous?
Maintenant déjà, non mais c'était qui est passé 6-7 fois à Canal à l'époque. Canal m'avait aidé donc à le financer parce qu'il a failli faire du montage, faire des interviews. Mais c'était pas un inside comme celui qu'on va voir ce soir, enfin aujourd'hui avec le stade, parce que c'était pas, il n'y a pas l'ouverture des vestiaires. Moi j'ai des trucs que je pouvais pas montrer quand même.
Ouais. Donc juste quand même pour l'histoire, je pense que le tout premier ça doit être Living with Lions que font les lions britanniques en 97. C'est ce qui inspire les yeux dans les bleus. Et pour les anglophones, allez-y, c'est une merveille,
mais oui, merveilleux.
Les discours de Telfer, de McGuigan, je pense que c'est le premier dans le rugby, dans l'histoire du rugby. Ouais.
Et récemment, il y a eu aussi tout l'inside avec les box lors de la dernière Coupe du Monde aussi, qui est pareil.
Qui est formidable aussi.
Mais de façon très paradoxale, tout en étant juste le jour de la sortie de ce film en avant-première, j'ai moi-même participé à une conférence à l'école de commerce il y a encore 6 ou 7 ans, sur lequel est-ce que l'on doit tout montrer dans le monde du sport? Et ma réponse était absolument non, étayée par le fait que la codification de ce qui se passe en avant-match, c'est-à-dire... à la fois sur un plan affectif, à la fois sur un plan de la superstition. Il y a un certain nombre de gestes et de codes qui sont faits qui n'apportent pas grand-chose quelque part. Je suis moi-même, pour ne pas trahir de secret, on étudie l'évolution de la captation de Canal+, auprès du Top 14. On a même fait porter des micros par des entraîneurs. Maintenant, Canal voulait même le mettre sur des joueurs au moment de l'échauffement. J'ai dit stop, on va trop loin.
Ça s'est fait d'ailleurs,
sur les joueurs à l'échauffement.
Ça s'est fait en Australie.
Ils voulaient l'importer chez nous. À un moment, j'ai l'impression qu'on intervient sur le contenu de la préparation. Et il ne faut surtout pas, me semble-t-il, d'une manière ou d'une autre, avoir une influence sur la préparation de la matière première, qui est de produire un match, et donc de se préparer pour, etc. Est-ce qu'on gêne la préparation en ayant fait venir cette caméra ? Moi, je ne l'ai pas senti. En tout cas, je le répète, on a été morts de peur au moment de la sortie.
Ouais, mais bon.
Et alors, et après ? Et après ? une fois que tu l'as vu ? Après, est-ce qu'il y a des choses qui t'ont gêné ? Est-ce qu'il y a des choses que t'as aimées ? Est-ce qu'il y a des... précisément ?
Bah, il y a des mots assez crus. Il y a le putain de film du putain d'acteur d'Hugo qui doit arriver... Oui.
232 fois putain.
nombre de fois trop importante. Il y a un champ lexical relativement faible, mais on le savait, mais on s'en rend encore plus compte en le regardant. J'espère surtout, vraiment en toute humilité, que ça va être regardé avec tout le respect possible que l'on a vis-à-vis de nos adversaires.
Bon, et certains, en tout cas certains de tes joueurs, sont moyennement rassurés. Tiens, Wilfried a interrogé Julien Marchand cette semaine.
C'est pas facile, non, c'est dur aussi, c'est pas que c'est dur, mais ça fait bizarre de se voir. Et puis après, c'est le principe de l'inside, c'est de vraiment tout montrer. Donc c'est sûr qu'on va se faire chambrer. C'est évident, mais bon, après, ça c'est. On montre celui-ci, mais c'est exactement pareil dans tous les clubs.
Wilfried, est-ce que tu avais eu Julien avant qu'il le voit ou après qu'il le voit ?
Après qu'il l'ait vu, bon. C'était à la sortie là en fait.
Parce que sinon j'avais entamé un travail de sable de 48 heures en disant c'est pas possible, le seul qu'on n'a pas pu corriger c'est toi, tu as des propos horribles.
Et surtout il a passé... lui qui fait attention à tous ses mots.
Exactement, il a passé 48 heures mort de peur, donc c'est pour ça que je voulais savoir si l'interview était avant ou après.
Ah, il avait un sourire en coin, il était tout rouge après le match, il est quand même assez discret Julien Marchand et voilà bon.
Il est pudique,
c'est ça, faut assumer aussi un peu, Didier. C'est difficile pour, pour les joueurs
extraordinaire.
Aussi.
C'est un joueur extraordinaire, ouais. C'est un combattant hors pair.
Et c'est un camarade hors pair.
Et je crois qu'on ne l'a pas assez dit, l'occasion m'en est donnée. Une des grosses premières au Stade Toulousain, c'est d'avoir donné le capitanat à 25 ans à un joueur talonneur, en l'occurrence Julien Marchand, et qui a fait énormément de bien à l'ensemble de ce groupe sur le leader qu'il est réellement.
Au stade et en équipe de France aussi.
Hein, au stade, en équipe de France.
Et puis avec son compère Movaca, en plus, parce que c'est un duo.
Ça tire tout le monde vers le haut, dans ce qu'on appelle, pour certains, la concurrence chez nous, l'émulation que l'on peut créer avec un Peato qui est également un joueur exceptionnel.
Didier, est-ce que les caméras sont toujours présentes dans le vestiaire du Stade Toulousain cette saison ? Est-ce qu'ils montrent, est-ce qu'il y a une suite qui est programmée pour la fin de l'année ?
Bien entendu. Parce qu'encore une fois, le projet était là pour 3 ans. Il n'était pas ciblé sur un film. Il était véritablement ciblé sur une série sur 3 saisons. Il n'y a rien de rassurant dans le profil de ce que nous promet Black Dynamite. Parce que ce qu'ils aiment, c'est une victoire, un passage très difficile et repartir sur les plus hautes marches. Si on pouvait éviter la deuxième étape, ça m'arrangerait.
Ah, c'est que vous avez prévu le scénario,
non,
alors.
Mais nous, on ne l'a pas prévu comme ça, non.
Donc là, il y a toujours une caméra dans le vestiaire.
Oui, il y a toujours une caméra dans les vestiaires. D'accord. Et encore une fois, ça se passe bien. La sortie du film ne va certainement rien changer à nos intentions. Le tout, c'est de savoir qu'est-ce qu'on va faire de cette matière.
Ouais. Alors, il y a une matière qui est filmée, mais là, pendant un moment, il n'y a pas eu les stars du Stade Toulousain, quand même, hein, pendant très longtemps. Hein. C'est une saison quand même incroyable, avec ces doublons, plus le Covid, qui a fait que vous avez été amputé quand même de plus de 10 joueurs pendant très longtemps, et qui fait qu'aujourd'hui, les résultats sont quand même compliqués, le classement est compliqué. Est-ce que, déjà, vous êtes ravis d'avoir retrouvé tout votre petit monde ? Est-ce que le retour s'est fait de manière parfaite, Didier ?
Alors c'est facile de parler après le match de Castres, mais j'étais intimement convaincu que, quoi qu'en dise l'ensemble de l'opinion publique, le retour des internationaux n'est pas une assurance tout risque pour les matchs à venir. D'évidence, ce sont des joueurs de très très haut niveau, mais ils ont également un bout de fatigue à gérer, même si les internationaux n'ont pas plus joué que les joueurs de club.
Non.
Mais ils ont joué à plus haute intensité. Ils ont eu des semaines de récupération également, puisque dans la période d'utilisation de l'équipe de France, il y a eu 3 semaines sans match, 2 au milieu et 1 juste avant le tournoi. Même si Romain et Antoine ont joué ce match-là, alors qu'ils n'auraient pas dû le jouer pour des raisons de retour de Covid. D'évidence, on a une fin de saison un peu compliqué. On s'est compliqué la tâche en perdant à Castres. On se l'était simplifié en regagnant contre Bordeaux et contre Montpellier pendant cette période de doublon. Et bien sûr, au-delà de tout le débat que l'on a déjà entamé et sur lequel je suis intimement convaincu qu'il faut continuer à avoir une équipe de France qui soit la vitrine du rugby, au-delà du fait qu'il y a une Coupe du Monde en France et d'évidence on doit être tous derrière cette équipe de France, il y a le travail en club. Le travail actuel et le travail à terme, parce que les clubs sont là aussi pour finir de former des joueurs qui deviennent un jour internationaux. Et il n'y a pas besoin de passer par la filière fédérale. La preuve en est faite, actuellement, on peut passer par les clubs, contrairement à ce que font les autres nations. Et d'évidence, je vais revenir au Stade Toulousain. On a une période de phase finale qui commence cette semaine, puisque nous commençons la phase finale de Coupe d'Europe avec l'Ulster. Avec une particularité, c'est qu'on n'a pas encore joué un seul match de Coupe d'Europe à Toulouse. Les deux matchs ont été annulés. Et donc, on n'a toujours pas joué en Coupe d'Europe et on est déjà en 8e de finale. C'est ouais, un peu c'est... du grand n'importe quoi sur la Coupe d'Europe, mais je pense que ça va se resserrer.
Après, il faut rendre hommage quand même à Didier, au Stade Toulousain, parce qu'ils ne sont jamais pleins pendant
oui,
les doublons.
Oui, alors c'est quand même non, mais exceptionnel, c'est vrai. Mais tu as raison de le signaler.
Que c'était quand même les moins bien lotis, on va dire. Et, ouais. Et au final, alors, bravo pour...
Heureusement qu'ils n'ont pas râlé, parce qu'évidemment, le Stade Toulousain étant
la
vitrine, la tête de poule du top 14, je pense que derrière, les langues auraient pu se délier. Il n'y a pas eu des moments où tu les as eu là quand même un peu, Didier, pendant cette période contre l'équipe de France et voir ton équipe perdre semaine après semaine sans ses stars.
On est dans un studio de la franchise avec un Vincent Moscato qui est juste sous nos pieds. Je me demande plus s'il y a des moments... Tu me demandes si je ne les ai pas eus souvent, je me demande quand est-ce que je ne les ai pas eus surtout. non, c'est Le mot résilience me vient à l'esprit. Il y a un moment où on a décidé de cette situation. Il faut savoir l'accepter. Et donc, faire avec. Après, je crois qu'on n'a jamais autant grandi que pendant cette période. Parce que nos jeunes ont progressé à vitesse grand V. Petit Guillaume Cramon, Yann Boubila ont été... on parlait des deux talonneurs qui sont aujourd'hui en équipe de France. Yannick Youyout, bien entendu. Martin Pajorello s'est révélé pendant cette période. D'autres sont encore un petit peu...
Kitoun qui revient, Puissac.
Ouais, et puis encore une fois, ça se joue à tellement peu. Je n'ai qu'un regret. C'est les deux reports de match du Stade français et de Montpellier. Il y en a un qui nous
Mais
a...
Mais tu as des regrets pour la billetterie, surtout, des regrets pour
alors,
les points.
Financièrement, ouais. C'est plus que des regrets, c'est des difficultés auxquelles on doit faire face. Des regrets, c'est de ne pas avoir joué ce joyau du 26 décembre, le Boxing Day, le stadium était plein à craquer, même les Cardurciens reviennent faire Noël chez eux et donc viennent au Stade Toulousain. Il y avait des gens qui venaient d'à peu près partout, j'ai croisé beaucoup d'Espagnols. On a un jeune international espagnol, Joël Mercler, qui est également en train de faire la promotion du Stade Toulousain en Espagne, on va jusqu'à là. Et tout le monde a été amputé de ce match le jour même, à juste 8 heures avant le coup d'envoi. Ça, c'est une énorme déception. Et c'est une déception, y compris sur un plan mathématique, puisqu'on ne pouvait pas marquer moins de points que ce qu'on a marqué, puisqu'on a marqué 0 contre le Stade français en 2 matchs, et notamment ce match-là. Il y a celui-là, le match de Montpellier, je l'évoquais, même si on a su... faire un très bon match avec cette équipe dite de doublons lors de la venue de Montpellier. Et puis, toutes les blessures que l'on a à ce moment-là pèsent deux fois plus. Reinhard Hellstadt a été absent des terrains pendant assez longtemps. Pita, qui nous a manqué également dans l'animation offensive, mais je laisse Denis juger sur la performance de ce garçon qui a une capacité à nous faire avancer, même si Lucas et Sofiane ont ce côté puncher. Pita amène peut-être...
devrait être le black, normalement.
Très bien. Bon, Didier, on te souhaite évidemment une bonne fin de saison. Hein. Les affaires toulousaines sont quand même engagées, bien engagées. Vous êtes cinquième, mais il faut quand même... Il reste quoi ? Cinq matchs de top 14 ?
Il reste quatre matchs. Quatre matchs. On va aller jouer un magnifique match, certes difficile, à Toulon, sur le stade du Vélodrome.
Ouais, ça va être
Donc un très bel événement pour le monde du rugby. On recevra La Rochelle. Là aussi, on a fait le choix de se déplacer au stadium et d'en faire une affiche de cette fin de saison. On ira chez les coriaces brivistes qui nous réussissent pas toujours très bien et on recevra le Biarritz Olympique pour le dernier match à domicile.
Bon, Denis,
combien de
qualifiés le Stade Toulousain dans les deux premiers dans les
de projections, combien de salles?
200 salles.
Ah ouais. C'est énorme. 200. Non, mais pour ce genre d'événement, c'est un truc énorme. Bravo. Hein.
On va voir.
Je te souhaite que ça marche parce que je sais que tu es intéressé aux recettes, évidemment. Donc ça fera rentrer un peu d'oseille.
Faut compenser ces doublons qui ont été reportés.
Ah, ben oui, c'est terrible. Il faut prendre l'argent où il est. Merci Didier Lacroix d'être venu entre les poteaux et bonne fin de saison et bon film. Donc Stade qui sort en salle le 13 avril. Merci à Denis qui lui aussi va à l'avant-première. Wilfried a déjà vu le film et Léo le verra très certainement. Merci les poteaux. On se retrouve lundi prochain pour un nouvel épisode. Bonne semaine. Ciao, ciao.